105.
Nous avons appris qu'à Calémie, depuis hier lundi, il y a eu démolition des engins non explosés au site de Monny, situé à 8 km au nord de Calémie. Cette opération entre dans le cadre de nettoyage des mines dans les zones au risque de mines, qui constituent un danger pour la vie des populations. Le Nord Katanga reste encore une zone dangereuse, vu le nombre de mines démolies au cours des 3 derniers mois. Les territoires de Nyunzu et de Kabalo, à l'ouest de Calémie, constituent encore, pour l'ONG de déminage, des foyers de mines. Alors aujourd'hui, bon nombre de gens se posent des questions, notamment que représentent les mines pour les populations? Quel est l'impact qu'apporte l'action menée par Dan Church Aid au Nord Katanga, c'est-à-dire cette ONG qui aujourd'hui justement procède à cette opération de démolition des engins non explosés au site de Domoni? J'espère que vous aussi, vous serez nombreux à nous appeler pour poser vos questions au 081 070 20 50. Mais d'abord le point avec François Avimibé. François, bonjour.
Bonjour Nicole Ngaka, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Alors comment s'est déroulée concrètement l'opération de démolition des mines à laquelle vous avez assisté hier lundi au village de Moni?
Écoutez Nicole Ngaka, nous avions mis une dizaine de minutes en voiture pour atteindre le site de Moni. Sitôt arrivé sur le terrain, une équipe médicale a sorti son arsenal médical qu'elle a posé sur une bâche de couleur rouge. Il y avait un brancard aussi. Et comme nous étions, moi et le chef Piaio, elle s'appelle Marie-Ève, des personnes étrangères à l'ONG de déminage, nous avons décliné notre identité et indiqué en même temps notre groupe sanguin sur un document qu'ils nous ont brandi. Avec toutes ces données, vous comprendrez, Nicole Ngaka, que tout est arrangé pour prévenir toute éventualité. Ensuite, nous sommes allés sur les lieux où s'est trouvé un trou creusé auparavant sous un arbre. Dans ces trous, ils y ont jeté des grenades de toute nature, des mortiers, des balles et des chargeurs garnis de balles. Et par moments, on nous demandait de quitter l'endroit et on y retournait après consigne. Après, l'équipe de déminage s'est mise au travail dans le trou. J'apercevais des détonateurs de différentes couleurs, de couleur rouge, jaune, et un fil long de plus de 300 mètres qui partait du lieu de démolition à un endroit où s'abritaient deux membres de l'équipage des démolitions. Enfin, j'ai entendu quelqu'un, sous un arbre, compter un rebours, 3, 2, 1, 0, et fire, il a dit ça en anglais, et une grande détonation a déchiré l'endroit, et une grande fumée blanchâtre était visible à plus de kilomètres. Et voilà, tout bounce, et voilà, c'est ça ce que nous avons vu.
Merci beaucoup, François Xavier. Vous nous avez vraiment amené au site de démolition même de ces engins, de ces mines. Certainement qu'avec nos auditeurs, il y aura d'autres précisions, parce que eux aussi, certainement, ils aimeraient réagir au 081 070 2050 pour apporter, pourquoi pas, de la lumière sur cette question. Mais parlons de l'expérience de démolition à laquelle vous avez pris part. Cela prouve que les problèmes des mines sont une réalité dans le Nord Katanga. Alors, François, quels sont les types de engins que découvre l'ONG Dan Church Aid dans des surfaces souillées des mines dans le Nord Katanga?
Selon le travail de prospection exécuté par cette ONG de déminage Dan Church Aid, les zones dites dangereuses se situent sur ce qui a été, il y a quelques années, rappelez-vous, Nicole Ngaka, la ligne de front pour les armées belligérantes au cours des périodes de troubles qu'a connu la RDC dans son ensemble, et Nord Katanga en particulier. Il y a aussi des aéroports, c'est vrai, mais pour Dan Church Aid, il existe plus d'engins non explosés que des mines antipersonnelles qui souillent les surfaces dans la région entière du Nord Katanga. Mais l'opération de déminage ainsi déclenchée a permis de nettoyer jusqu'à présent seuls 30% des surfaces dans les Nord Katanga, et ce qui nous permet, n'est-ce pas, de vous dire que le chemin reste encore à parcourir. Mais ce constat que nous sommes en train de faire n'est pas le nôtre, mais il est fait exactement par Milton Madani, qui est le conseiller technique à Dan Church Aid, que je vous propose d'écouter, Nicole Ngaka.
Normalement, ici au Nord Katanga, il y a tant d'Ixos. Et ces Ixos-là sont des types différents. Il y a des Ixos qui sont retrouvés, qui ont été projetés et ils n'ont pas explosé. Il y a d'autres Ixos qui ont été laissés, par exemple, par des militaires en brousse et qui ne sont pas explosés jusque-là. Mais il n'y a pas beaucoup de mines, mais plus que des Ixos que des mines. Vraiment, c'est dangereux, ces engins au Nord Katanga. Il y a des gens qui commencent déjà à rentrer dans leur village et ils veulent maintenant débrousser, ils veulent aller puiser des l'eau, les sentiers qui sont en train de pratiquer. Et on raconte ce genre d'engins, alors que c'est dangereux pour la population.
On a suivi là le constat fait par Milton Madani, conseiller technique à Dan Church Aid. Juste une précision, hein, François, j'aimerais préciser aux auditeurs que nous aurons tout à l'heure comme invité Haruna Ouidraogo du Centre de coordination de lutte anti-mine. Il est directeur, programme manager dans ce centre. Il sera là pour nous donner encore plus de précisions, toujours sur cette question. Mais avec vous, comment la population est-elle prévenue contre le danger que représentent ces engins de mort, notamment les mines?
Écoutez, Mikon Gaka, avant de pouvoir répondre à votre question, laissez-moi vous dire tout de suite là que dans l'intervention de celui qui était en train de traduire notre monsieur Milton Madani, il parlait des UXO. En d'autres termes, c'est expliquer simplement les engins non explosés. Mm. Ainsi, en essayant de répondre à votre question, Mikon Gaka, selon les habitants des villages de Tabakongo, par exemple, de Massaboa ou de Bendera au nord Katanga que nous avons dû rencontrer, la campagne de sensibilisation menée auparavant par les opérations et par les agents de l'ONG Dan Church Aid dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et cette campagne a permis à plus de populations à éviter les objets rencontrés dans les champs, dans les sentiers qui mènent au puits ou même ceux enfouis dans les sols. L'attitude des populations face aux engins suspects rassure davantage l'ONG Dan Church Aid. Mais pour cette ONG, cette action, son action bien sûr, porte des fruits sur le terrain. À cet effet, l'ONG en question déplore tout de même qu'au courant de trois derniers mois, deux victimes, évidemment, d'engins non explosés ont été enregistrées dans les territoires des Kalemie. Mais écoutons ensuite une autre fois les conseillers techniques Milton de Madani en parler beaucoup plus.
So far, I can say we only came across two.
Les gens actuellement, donc selon lui, depuis qu'il est arrivé, présentement, il a vu deux victimes d'abord de ces mines. Parce que beaucoup de gens sont déjà informés sur les dangers de ces choses. Donc ils ont eu l'éducation sur les risques des mines et ils savent déjà que lorsqu'ils voient, ils fuient. Et pour lui, c'est cette chose-là, vraiment, ça lui plaît beaucoup. Il a eu ce résultat en partant des villages qu'il a côtoyés. Donc, quand il passait dans un village, il y a les villageois qui venaient lui dire, et nous avons vu ceci, nous avons vu ceci, même une pièce de métal qui découvre, il voit suspect, ils viennent directement amener les rapports au lieu de toucher cette chose. Alors, il dit que ce nombre de victimes est moins parce que la population est bien informée sur les trucs. Donc, s'ils voient quelque chose de danger, ils viennent directement informer au lieu de toucher.
Okay. Ok, donc la population est bien informée, mais pour ceux-là qui nous suivent en ce moment et qui aimeraient poser leurs questions, en tout cas n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, hein, au 081 070 20 50. Alors François, est-ce que vous avez une idée sur le personnel affecté au travail de déminage et celui de démolition des engins non exposés à Dan Church Aid, cette ONG qui est chargée justement de l'opération de déminage?
Écoutez, Nikon Gaka, avant d'amorcer l'action proprement dite de déminage sur le terrain, cette ONG dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, Dan Church Aid, avait consacré un temps important à la formation d'une main-d'œuvre locale. C'est vous dire en d'autres termes qu'en dehors du personnel expatrié composé également des Africains comme Milton Madani, c'est un sujet zimbabwéen que nous venions à peine d'entendre, la plupart des mineurs des jeunes Congolais formés localement, et la majorité est constituée des jeunes femmes. Et ça, c'est vrai, quand on entre dans l'enceinte de Dan Church Aid, vous serez vraiment frappé par la présence des dames. Il paraîtrait que les femmes réagissent beaucoup plus positivement dans les cadres des déminages. Ainsi, la majorité est constituée de jeunes femmes, voulais-je dire, et depuis, le travail est exécuté par ces jeunes sous la supervision technique des conseillers étrangers, bien avisés sur la démolition et le déminage, bien sûr. Mais tel le cas, par exemple, de Massoudi, Kam Salé, que nous avons dû rencontrer, un jeune homme congolais, chef d'équipe de déminage, mais qui travaille sur le terrain depuis plusieurs mois, on peut facilement l'écouter.
Ailleurs de Kalemie, on a travaillé, et encore surtout dans la zone de Nyunzu. À Nyunzu, on a travaillé là-bas, en tout cas, on a fait un grand travail. À l'aéroport de Nyunzu, il y avait des mines, il y avait des engins explosés comme les XO qu'on appelle, les roquettes, les mortiers, ainsi de suite. Et aussi là, dans un village appelé Changa Changa, là au fond de Nyunzu, il y avait aussi des XO, ainsi que des mines, et aussi à 8 km la route qui mène vers Kabeyamaï, il y avait aussi des engins, des XO, ainsi que des mines. En tout cas, on a beaucoup travaillé ailleurs comme à Nyunzu, comme je vous l'ai dit. À Kabalo, la route qui mène mène vers Nzovu. Il y a un grand travail, il y a un grand champ de mines, là où on avait piégé de mines, beaucoup de mines, on avait mis beaucoup de sentiers.
Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire hein, là-dessus. Une chose quand même importante à ne pas négliger, hein. François Xavier, on retient qu'il y a beaucoup de femmes qui s'activent, en tout cas dans cette opération de déminage. Ça veut dire qu'avec les femmes, on peut aller de l'avant, hein. on peut se le permettre. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un mot de la fin à ce sujet, François Xavier Mibé?
Un mot de la fin, justement, pour marier ce que vous veniez à peine de dire, Nicole Ngaka. L'affaire de mines, ça ne concerne nullement pas les femmes que l'on voit pratiquement engagées au niveau de Dan Tchatched. Je crois que c'est l'affaire de tout le monde, l'affaire de la communauté, l'affaire des responsables, l'affaire du gouvernement, l'affaire de ceux-là qui sont vraiment les poseurs des bombes, mais qui savent les poser, mais qui ne savent pas non plus les enlever. C'est l'affaire vraiment de tout le monde, c'est une affaire qui implique bien sûr le travail de toute la
l'ensemble.
Communauté, de toute la nation.
Merci beaucoup. Hein. Accent Issana, François Xavier Mibé, on va donc retrouver maintenant Aruna Ouedraogo, qui est responsable au niveau du Centre de coordination de lutte anti-mine ici aux Nations Unies. Il est programme manager directeur, donc il sera là pour répondre à toutes nos questions, à condition, chers auditeurs, que vous réagissiez à temps au 081 070 2050. Accent Issana, François Xavier, à la prochaine.
Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi de vous dire au revoir.
Radio Okapi.
Okapi.
Un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
Nous recevons à présent notre invité, Aruna Ouedraogo. Il est là pour répondre à toutes vos questions, chers auditeurs de Radio Okapi. Bonjour, monsieur Aruna Ouedraogo.
Bonjour, madame.
Merci d'être là pour justement répondre aux questions des auditeurs. Nous savons que depuis hier lundi, l'opération de démolition des engins non exposés, c'est-à-dire des mines, a démarré hier au site appelé Moni, situé à 8 km au nord de Kanemi. Opération qui se fait avec l'assistance de l'ONG danoise de déminage, Dan Church Aid. Alors, on aimerait savoir quelle est la contribution du Centre de coordination de lutte anti-mines dans cette opération de déminage.
Je vous remercie pour l'occasion que vous donnez au Centre de coordination de lutte anti-mine, donc de parler du problème des mines au niveau de la République démocratique du Congo. Pour répondre plus précisément à votre question, comme son nom l'indique, le Centre de coordination se charge de coordonner toutes les activités de la lutte anti-mine. Alors, à ce sujet, je voudrais très rapidement, si vous permettez, vous donner les composantes de la lutte anti-mine.
Allez-y.
La lutte anti-mine comporte, outre le volet déminage dont on parle, le volet destruction des UXO, elle comporte également des activités comme l'éducation au danger des mines dont on a parlé, c'est-à-dire aller vers les populations pour les sensibiliser au danger qu'elles courent par rapport à l'existence de ces mines et de ces UXO sur leur territoire. Elle comporte également des opérations d'assistance aux victimes de mines, parce que cela est très important. Il faut, les gens, après des accidents de mines, sont traumatisés, outre les séquelles physiques qu'ils sont là. Les personnes sont traumatisées, il faut les prendre en charge, il faut les aider à se réinsérer dans leur société. Et donc, l'assistance aux victimes constitue un volet très important. La lutte anti-mine également comporte d'autres volets qui sont en direction du gouvernement, qui constitue ce qu'on appelle l'advocacy pour la mise en application de la Convention d'Ottawa, qui est la convention qui régit cette lutte anti-mine au niveau des États. Mmh. Alors donc, il y a plusieurs aspects. Donc, le centre de coordination se charge d'assurer la coordination de toutes ces activités. Et donc, à ce titre, elle apporte, autant que faire se peut, tout le support qui est requis par ces opérateurs pour l'exécution de ces opérations de déminage sur le terrain.
Parlons justement des actions menées par ce centre au niveau du gouvernement. Quel type d'actions menez-vous concrètement? Parce que nous savons que tous les jours, en tout cas, si pas tous les jours, il y a des victimes de ces mines qu'on constate pratiquement tout le temps ici au Congo. Alors, les poseurs de ces mines continuent tous les jours à déposer les mines. En conséquence, il y a toujours des victimes. Alors, comment arrivez-vous aujourd'hui à intervenir au niveau du gouvernement de façon à ce que demain, qu'il n'y ait plus de poseurs de mines ici au Congo?
Je voudrais tout de suite rectifier le tir, comme on dit. Nous agissons au compte du gouvernement, mais nous ne sommes pas du gouvernement congolais. Nous sommes un centre des Nations Unies, donc qui est sous l'auspice de la MONUC et qui donc aide le gouvernement congolais. pour la lutte anti-mine.
Oui, ça c'est, ah, c'est précis.
Oui, c'est vraiment la précision.
Mais vous menez directement des actions au niveau du gouvernement.
Au niveau du gouvernement, oui. Nous demandons au gouvernement et nous menons des activités au nom du gouvernement, en ce sens que, par exemple, nous accréditons les opérateurs de déminage, ceux qui viennent pour faire du déminage en République démocratique du Congo. Mmh. Nous leur donnons ce qu'on appelle l'accréditation, qui est l'autorisation de pouvoir procéder à ces opérations au nom du gouvernement congolais. Nous agissons également et nous aidons le gouvernement congolais à remplir autant que faire se peut les obligations de la Convention d'Ottawa, notamment en ce qui concerne les rapports qui doivent être faits annuellement par la République démocratique du Congo au titre des obligations donc de ce traité que la République démocratique du Congo a signé. Alors donc au niveau de la République du gouvernement également, le gouvernement a une politique qui consiste à prendre en charge, à tout faire pour prendre en charge cette lutte anti-mine. C'est l'objectif premier du gouvernement. Et le centre de coordination de lutte l'aide dans ce sens en favorisant ce que nous appelons l'établissement d'une capacité nationale qui doit prendre la relève de ces opérateurs comme Dan Church Aid dont vous parlez. Donc faire en sorte que au niveau du gouvernement qu'il y ait une relève qui soit préparée pour pouvoir
c'est
prendre,
important de savoir d'avoir d'autres détails parce que nous savons qu'aujourd'hui la RDC est confrontée à ce problème de mines. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de villes ou de provinces qui sont ciblées par ce problème de mines?
J'ai envie de vous répondre que, de manière générale, presque toute la RDC, toutes
même
les provinces,
même
ici à Kinshasa, et si c'est peut-être Radio Okapi qui peut donner la preuve, Radio Okapi a fait un reportage il y a exactement deux dimanches sur des destructions d'Uxo au niveau de la ville de Kinshasa qui menaçaient des bureaux, qui menaçaient des zones habitées. Donc, pris au sens large du terme, c'est-à-dire en entendant par mine, les mines antipersonnelles effectivement, les mines antichars aussi, mais également les engins non explosés, on peut dire que toute la République démocratique du Congo est touchée, bien sûr à des degrés divers. Il y a des provinces comme le Katanga que vous venez de citer qui est très touchée, qui est l'une des provinces les plus touchées. Il y a l'Équateur, il y a au titre des provinces très touchées, il y a la province orientale également. Il y a, je pourrais citer aussi le Sud Kivu. Mais il ne doit pas moins que des provinces comme le Mbandundu ou même Kinshasa, dont on parlait tout à l'heure, sont des provinces où on trouve aussi des engins non explosés qui menacent les vies des populations.
Haruna Ouédraogo, beaucoup de gens peut-être ne savent pas ce que c'est qu'une mine. Ils ne se sont jamais retrouvés en face d'une mine. Alors, comment savoir? Que dire à la population congolaise en ce qui concerne les mines? Comment savoir qu'on est en face d'une mine antipersonnelle ou autre engin non explosé?
La réaction, c'est plutôt beaucoup plus de dire à ceux qui sont dans des zones où il y a eu des combats, parce que c'est là où le problème se situe, de dire à ces gens de se méfier de tous les objets suspects qu'ils pourraient trouver sur le sol et qui pourraient être intéressants pour jouer pour les enfants, soit également à titre de récupération de fer.
Ce qui devrait attirer leur attention, c'est quoi, par exemple, quand on se retrouve en face d'une mine?
C'est quand on se retrouve en face d'une mine, on se retrouve en face d'un objet qui a la forme d'un objet normal. C'est souvent une boîte d'allumettes, c'est souvent la forme d'un papillon. C'est souvent très intéressant parce que elles ont souvent des formes qui sont des formes attractives, comme des mines qui ont des formes de papillons,
en fait,
qui attirent, voilà, très attractives. Et donc, qui intéressent, qui a vue d'œil et qui fait que les gens sont tentés de les toucher, sont tentés de les manger. Donc, ce qu'il y a, c'est éviter tout objet, tout engin suspect dont on n'a pas vraiment l'habitude de voir de tous les jours, comme les boîtes de sardines ou comme les boîtes de lait. Si vous voyez un engin que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui a une forme bizarre, il faudrait s'en méfier automatiquement.
Et souvent, c'est situé à des endroits que la population ne fréquente pas tellement, ou bien c'est déposé partout?
Ça dépend des zones. C'est partout où il y a eu des combats. Alors, les combats, c'est souvent dans les villes, dans les localités. Les combats, c'est également dans les zones non habitées. Donc, c'est un peu partout. Mais la plupart du temps, c'est essentiellement hors des zones habitées, pour ce qui est des mines tout au moins, mais les engins non explosés n'ont pas de, de localisation précise. Vous les trouvez aussi bien en ville que dans les zones non habitées.
Donc il faut être prudent, hein, c'est ça le mot d'ordre à retenir.
Il faut même être très prudent, particulièrement dans ces zones. Je vous donnerai l'exemple de deux enfants à Kabundu, c'est dans le sud Kivu, deux enfants qui gardaient des animaux, qui ont vu un engin justement du type, c'est une grenade. Ils ont pris la grenade, ils se sont amusés avec, voilà, ils savaient pas, ils se sont amusés avec, ils ont même été jusqu'à taper dessus, ça a explosé, tous les deux enfants sont morts. Plus près de nous, il y a quelques jours, le 26 novembre plus précisément, à Kibwika, dans le Maniema, un chef de famille, un jeune chef de famille a tué sa femme, justement, parce qu'il a récupéré un engin non explosé qu'il a ramené à la maison et sur lequel il a tenté de
donc ça prend du temps avant d'exploser parfois.
Ça prend du temps et ça explose essentiellement suite à des manipulations. Beaucoup plus. Mm-hmm. Ça n'explose pas tout seul comme ça. Ça explose et c'est là l'objectif de l'éducation au danger des mines. Mm-hmm. Ça explose suite à des manipulations. Ce jeune père de famille a ramené ça à la maison. Il a voulu taper dessus et ça a explosé. Et lui, il est parti, sa femme également. Et puis leur fillette de 7 ans a été grièvement blessée.
Aujourd'hui, on peut avoir une idée sur le nombre de victimes de ces engins non explosés, de ces mines?
Avec précision, c'est très difficile à dire, mais nous avons des statistiques que nous avons établies suite à des informations qui nous ont été fournies par des gens qui se trouvent sur le terrain, essentiellement par des ONG comme Dan Church Aid qui travaillent sur le terrain, mais ce n'est pas Dan Church Aid. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour dire qu'il y a plusieurs ONG. Il y a notamment Mine Adversary Group, MAG, qui travaille également dans le Nord Katanga aussi, et puis qui travaille aussi en Équateur. Il y a Handicap qui est international, qui est à Kisangani, dans la province orientale. Il y a aussi une compagnie qui a été engagée par la MONUC, MECEM, au profit de son déploiement. MECEM qui est basée à Bunia, en Ituri. Et voilà essentiellement mais nous avons d'autres ONG, nous avons des ONG locales aussi qui commencent à émerger.
Et donc, aujourd'hui, on a pu détruire ainsi combien de mines ou encore d'engins non explosés?
Alors, à ce jour, on a pu détruire au moins près de 3000 mines
en RDC
et plus de 25 000 engins non explosés. On a fait la différence entre les deux.
Alors, il y a une différence entre engins non explosés et mines?
Oui, c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure. C'est les mines constituent l'appellation mine, c'est des engins qu'on enterre et qui sont là et qui attendent. Quand vous marchez dessus, elles explosent, ou bien quand le véhicule passe dessus, elles explosent et donc font des victimes. Oui. Les engins non explosés sont des obus ou bien des obus de canon ou de mortier qui ont été tirés et qui n'ont pas explosé. Et donc, c'est ce type d'engin, par exemple, que le père de famille de Kibwika a ramené à la maison. Ce ne sont pas des engins enterrés, ils sont là, qui ont été plantés exprès. Ce sont des engins qui ont été tirés, qui devaient exploser, mais qui n'ont pas explosé, et qui, donc, constituent maintenant des dangers pour les populations.
On va terminer par là, parce qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, des questions pertinentes aussi, hein, par nos auditeurs. Serge Kalonji, depuis Kinshasa, qui dit qui finance toutes ces opérations de déminage et qui paye les personnes qui déminent. En quelques mots, qu'est-ce que vous le direz?
En quelques mots, la communauté internationale, pour la plupart jusque-là, le gouvernement congolais, compte tenu de tout ce que nous savons, n'a pas encore pris en charge la lutte anti-mine. Les opérations sont pour la plupart financées par la communauté internationale de manière bilatérale ou de manière multilatérale à travers des organisations comme UNMAS, qui est le quartier général de la lutte anti-mine au niveau des Nations Unies. Donc, il y a donc des partenariats, il y a des recherches de fonds qui sont faites au niveau international. Et ce sont ces recherches qui, jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à l'heure où nous parlons, financent toutes les opérations de lutte anti-mine en RDC.
Et jusque-là, est-ce qu'on peut identifier les fabricants de ces mines et ceux qui les ont utilisées, surtout où ils les ont posées? Ça, c'est la question que vous pose Léopold depuis une ville de la RDC, Léopold Kalunga.
Oui, identifier les fabricants de mines, oui, parce que à travers ce que nous retrouvons comme mines, nous avons les origines. On trouve des mines tchèques, on trouve des mines belges, on trouve des mines sud-africaines. Enfin, on trouve un peu partout, un peu de
pratiquement tous les pays en fabriquent.
Tous les pays fabricants de mines, pas tous les pays n'en fabriquent pas, parce que le Congo n'en fabrique pas. Mais enfin, au niveau de, vous avez ce qu'on appelle les phénomènes de mines moins chères. qui sont des mines qui sont produites par les pays du tiers-monde, pour la plupart les pays sous-développés et les pays de l'Europe de l'Est. Ce sont généralement ces types de mines que nous retrouvons ici en RDC. Donc les mines tchèques, les mines chinoises et les mines
L'idéal serait qu'on arrive à interdire la fabrication de ces mines.
Et c'est l'objectif de la convention d'Ottawa que la République démocratique du Congo a souscrit, à laquelle la République démocratique du Congo a souscrit. La convention d'Ottawa est une convention donc qui interdit aussi bien la fabrication que l'utilisation, la commercialisation ou même le transfert des mines antipersonnelles. Donc, mais malheureusement, jusqu'à l'heure où nous parlons, elle n'a pas été ratifiée par tous les États. Elle a été ratifiée à ce jour par près de 152 États. Il reste encore une quarantaine d'États qui n'ont pas souscrit à cette convention.
Pourquoi bon nombre hésitent alors qu'il y a des victimes?
Laissez-moi vous dire, très belle question, mais le plus intéressant à savoir, c'est que ce sont les pays qui sont les plus gros producteurs qui sont parmi ceux-là qui n'ont pas encore ratifié, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie, des pays qui n'ont pas encore...
Parce qu'il n'y a pas de victimes chez eux?
Parce qu'il n'y a pas de victimes chez eux, parce que ce sont des pays qui considèrent qu'ils ont des utilisations encore positives à faire, à tirer de ces mines, ce qui a été... démontré, prouvé étant faux. Et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que ces pays, c'est parce que c'est des commerces très juteux également qui permettent le commerce.
On aura l'occasion de revenir là-dessus, Runa Ouédraogo, prochainement dans une autre émission, mais aujourd'hui on s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.